bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui dans le podcast, on va parler. Alors j'ai plusieurs petits sujets. Enfin non, j'ai un petit sujet et un sujet que je vais bien développer. Je vais vous détailler un peu ma pensée là-dessus parce que j'ai beaucoup réfléchi sur ça et pour arriver à la conclusion que j'ai là. Alors ça va vous paraître logique. Mais croyez-moi, il y a eu une réflexion derrière quand même par rapport à tout ça. Là, j'ai trouvé des chiffres et tout ça, mais bon, on va voir dans un second temps. Alors, on va parler des salles de sport qui réouvrent. On va parler aussi de la forme et des loisirs chez les. Alors, petite précaution d'écoute. Je vais utiliser les termes pauvres et riche. Dans les deux cas, le mot pauvre aujourd'hui, dire qu'on est pauvre ou dire qu'une personne est pauvre, c'est entre guillemets pas bien, il faut pas le dire, etc. Et riche, pareil, c'est-à-dire que ça peut heurter la sensibilité des gens. Donc je le précise, je vais utiliser ces termes-là parce que c'est ceux qui sont utilisés dans les articles que j'ai récupérés. Et ça met une forme de simplicité dans mon discours également, plutôt que de dire des personnes à bas revenus ou des personnes à haut revenus, qui sont que des choses en fait pour vous embrouiller l'esprit et que la pilule passe mieux. Un petit peu comme à l'époque où, je sais pas si vous avez connu cette transition-là dans le monde de l'entreprise, où on disait plus les salariés. Ou mes employés. Un patron ne disait plus mes employés, mes salariés, mais il disait mes collaborateurs. Est-ce que vous avez vécu cette transition? Moi, j'ai été embauché sous forme de salarié, d'employé, et j'ai vu la naissance dans les discours. On sentait la bonne formation des managers qui avaient longuement pondu ça dans une réunion, dire ah bah pour essayer de les mettre au même rang que nous, enfin en tout cas les faire croire qu'ils sont au même rang que nous. On va plutôt parler de collaborateurs. Bref, c'est un petit peu la même chose. Pauvre, riche, haut revenu, bas revenu, ce sont des termes un petit peu pour venir un petit peu lisser le heurter personne en fait finalement. Moi je vais utiliser les termes un peu plus bruts parce que pour mon discours ça va être un petit peu plus parlant. Bref. Et bon, on va parler comme j'ai dit de ça. Ce que j'avais envie de voir aussi avec vous avant de démarrer, c'est que bon, je suis pas vraiment surpris mais ça marche très bien ce que j'ai proposé là. Ça fait déjà 2 semaines maintenant que je propose une série que j'appelle Anatomie entre guillemets, hein. C'est des courtes formations qui durent moins d'une heure pour apprendre à entraîner un groupe musculaire. Donc j'ai fait les quadriceps, alors je sectorise au maximum, hein. C'est-à-dire que je vais pas travailler sur les cuisses, mais je vais travailler sur les quadriceps parce que je pars du principe que bon voilà, vous êtes plus des débutants, vous cherchez plus à travailler les cuisses, vous voulez travailler les quadriceps ou les ischios ou les fessiers ou les mollets. Vous avez envie d'être un petit peu plus pointu. Donc du coup, je fais un travail d'analyse un petit peu plus pointu, précis sur une zone musculaire. Et je suis pas vraiment surpris que ça fonctionne parce que finalement, on avait beaucoup de contenu sur les méthodes d'entraînement, sur tout ça qui était disponible dans les bouquins et tout, mais assez peu de concret. Et le concret, c'est, enfin, pour moi, le concret, c'est ce qui amène à passer à l'action. Et finalement, avec ces petits cours que je propose, là, ce week-end, j'ai sorti le dos. Je vois des bons retours, donc tant mieux. Je suis content. Donc, si vous voulez aller faire un tour, vous pouvez voir le lien. Donc, vous arriverez, enfin, vous verrez. Il y a pour le dos, il y a tout. Je parle du dos, le grand dorsal, les lombaires, les trapèzes, mais également des muscles un petit peu plus profonds qu'on cherche pas trop à solliciter et qui pourtant peuvent donner à la fois un côté esthétique et un côté posture, force, etc. Et donc du coup, ben voilà, vous aurez les outils pour bien travailler votre dos. Et en fait, ce que je veux avec ce genre de contenu, c'est une forme de boîte à outils. Quand je dis boîte à outils, ça veut dire que quel que soit le mouvement de musculation pour le dos par exemple que vous vouliez faire, que vous avez envie de faire, vous savez directement ce que ça va bosser, ce que ça va solliciter, ou en tout cas, dans quel sens ça va aller au niveau de votre physique. Et ça vous permettra également d'avoir peu importe le programme que vous allez utiliser ou qu'on va vous donner, vous êtes capable, ou même quand vous allez voir une machine de musculation, là les salles vont réouvrir dans pas longtemps, vous saurez exactement dans quel sens ça va améliorer votre dos ou pas d'ailleurs par rapport à tout ça. Analyse des membres longs, courts, enfin bon bref, il y a tout un tas de choses comme ça que je propose, assez condensées, de manière à ce que vous puissiez vraiment avoir des outils, puis il y a le PDF qui va avec pour avoir une petite fiche repère. Voilà, bref, je m'arrête ici, le lien est en description. Vous avez celle sur les quadris qui est dispo, celle sur le dos qui est dispo, et il y a ce dimanche là qui arrive, vous aurez celle sur les biceps, et je vais tourner là celle sur les ischios normalement cette semaine. Donc vous avez pas mal de contenu qui est disponible et qui arrive par rapport à tout ça. Allez, on démarre avec le calendrier de déconfinement par rapport aux salles de sport. Donc comme vous le savez, les salles de sport vont réouvrir, donc réouvrir sous certaines conditions ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, là le petit tableau que j'ai trouvé me dit que à partir du 9 juin, vous aurez les accès aux salles de sport avec des jauges limitées. Donc j'imagine que ça sera un nombre d'adhérents autorisé dans les salles, donc certainement il y aura des listes d'attente, en tout cas il y aura peut-être des processus de réservation, etc. Je ne vois pas la mention du pass sanitaire pour les salles de sport, ce qui est par contre le cas pour les stades et établissements sportifs. Donc stades et établissements sportifs à partir du 19 mai, donc le 19 mai ça sera ouvert avec des jauges limitées. À partir du 9 juin, je comprends pas pourquoi ils mettent le pass sanitaire en place alors qu'il n'était pas avant. Et à partir pour les stades et établissements sportifs, et à partir du 30 juin, on a que avec le pass sanitaire. Bon, pour les salles de sport, c'est à partir du 9 juin avec des jauges limitées, et à partir du 30 juin où c'est en open bar, quoi, en full accès. D'ailleurs, je vois aussi que les discothèques ne réouvrent toujours pas. J'ai une petite pensée pour pas mal d'anciens collègues qui travaillaient à la porte ou sur les parkings des discothèques dans la sécurité. Enfin, personne n'en parle de ces personnes-là, mais ça fait plus d'un an qu'elles n'ont pas de travail. Bon, voilà, c'est pas les seuls, mais j'entends rarement parler dans les médias des videurs de boîtes et des agents de parking et tout ça qui n'ont pas de job, quoi. Bon. Ben voilà, un petit peu pour par rapport aux salles de sport. Alors, je sais pas si je referai d'ici la réouverture, peut-être que je ferai un podcast spécial là-dessus, je sais pas, on verra, ou peut-être une formation, il faut voir, mais je vous annonce directement que beaucoup de personnes vont avoir des regrets dans le sens où quand ils vont recommencer à s'entraîner dans la salle, ils vont se dire bordel, pourquoi j'ai rien foutu pendant toute cette période de confinement? Ils vont sentir en fait que ils se sont largement dégradés. Largement dégradés au niveau physique, mais aussi au niveau musculaire, nerveux, force en fait. Ils vont sentir qu'ils ont plus la gouache, la force, l'énergie qu'ils avaient avant. Alors moi j'aimerais un petit peu les rassurer. Dites-vous bien déjà qu'au bout d'une semaine, il va se passer de gros changements si vous vous êtes arrêté. Au bout de 15 jours, vous commencerez vraiment à récupérer vraiment pas mal si vous faites les choses correctement. Et après, au bout d'un mois, vous êtes revenu dans votre vitesse plus ou moins de croisière. Bon, au niveau physique, ça ne veut pas dire qu'en un mois, vous allez redevenir comme avant, parce que enfin, je ne connais pas votre point de départ, votre point d'arrivée par rapport au confinement. Donc, si vous avez tout abandonné et que vous avez pris des tonnes de... Parce qu'en un an, on peut prendre du poids, hein, on peut prendre du gras, ou on peut maigrir, on peut perdre beaucoup de muscles aussi. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous. Moi, ce que je vous recommanderais, en attendant, parce que le podcast là sortira, quand il sort, là, quand vous l'écoutez, on sera le 4 mai,
enfin je crois,
oui c'est ça, moi je vous recommande vivement de vous remettre en forme avant la réouverture. Donc ça veut dire quoi? Sortez, marchez, courez, faites des pompes, faites des tractions, je sais pas, mais faites quelque chose, enclenchez une routine, même 5 minutes par jour, pour vous remettre le corps dans le mouvement, de manière à ne pas être surpris de l'entraînement. Et c'est pareil, vous êtes resté, les salles de sport ont fermé brutalement l'année dernière, du jour au lendemain, plus ou moins. Donc, vous avez été arrêté brutalement à un niveau de force, à un niveau de technique, à un programme donné. Ne cherchez pas à le reprendre directement. C'est-à-dire que si vous étiez, par exemple, sur un développé couché à 100 kilos, je vous déconseille largement de reprendre du 100 kilos au développé couché. N'y laissez pas un pec. Ça serait quand même dommage de vous réarrêter pendant 6 mois. Allez-y progressivement. Dites-vous bien une chose, c'est que que tout le monde va être dans le même bateau, hein, dans la salle de sport, sauf les sportifs de haut niveau qui, eux, ont eu accès, ou ceux qui ont grugé pour avoir une attestation. Mais en tout cas, vous allez avoir un départ, un renouveau. Donc, repartez comme si vous étiez débutant. Soyez focus, concentré, ne soyez pas vraiment ailleurs quand vous allez reprendre des barres et tout ça, parce que vous allez être sujet, votre corps n'a pas vécu la contrainte depuis un certain temps, ne serait-ce que même sur des machines où vous aviez l'habitude de bosser, des presses à cuisses, des choses comme ça. Votre corps s'est déshabitué, ça fait un an, n'oubliez pas une chose, ça fait un an que votre corps n'a pas subi des contraintes mécaniques lourdes. Pour les personnes également qui se sont entraînées à la maison en léger, en série longue et tout, ils ont gagné certainement des compétences dans certains domaines, mais dans le domaine pur et dur des charges lourdes, ils ont perdu. Donc, soyez vraiment, allez-y mollo, c'est bon, ça réouvre, allez-y tranquille, ne faites pas une boulimie de charges et de tensions, etc. Reprenez de manière à ne pas vous arrêter, et surtout que là, ça réouvre à un moment où, les plages, les piscines et tout, ça va réouvrir aussi, donc vous allez pouvoir vous remettre en maillot de bain et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent c'est le moment ou jamais de se réinscrire, il va y avoir du monde d'ailleurs, je pense. Faites les choses correctement, quoi. Mettez-vous au régime maintenant, si vous avez besoin de perdre un petit peu de gras. Activez-vous. Donc, faites des pompes, et allez sur mon site. J'ai plein de trucs pour les personnes qui n'ont pas de matos. C'est justement pendant le confinement, j'ai fait beaucoup, beaucoup de contenu là-dessus. Et donc, voilà. Bon. On passe au sujet suivant, parce que là, c'était juste pour vous donner un petit peu d'infos. Je me devais d'en parler puisque, quand même, ça parle de salle de sport. Alors, le sujet suivant. C'est au sujet, comme je disais en introduction de ce podcast, c'est l'histoire des pauvres, des riches, des loisirs et tout ça. Bon. Moi, le titre que j'ai donné, c'est « Être en forme, est-ce une question de temps et d'argent ?» Alors, on va voir un petit peu... Parce que vous savez, d'être en forme physiquement, souvent on attribue ça aux personnes qui ont, de l'argent, ils peuvent s'acheter des aliments de bonne qualité, ils peuvent s'inscrire en salle, ils ont parfois plus de temps, ils ont moins de stress, etc. Et donc du coup, ceux qui ont des faibles revenus sont un petit peu plus privés de tout ça parce qu'ils ont moins d'argent, donc ils peuvent pas, par exemple, se payer un abonnement en salle de sport, ils peuvent pas manger du bio et tout ça. Bon. Dans les chiffres, chez les faibles revenus, donc les personnes jugées entre guillemets pauvres, 7 sur 10 se privent d'activités de loisirs comme le cinéma ou le sport. Donc 7 personnes sur 10 se privent, il y a marqué, hein, d'activités de loisirs. 6 personnes sur 10 renoncent à la salle de sport. Donc en gros, on a 30% qui vont à la salle de sport. Et on a 40% qui ne renoncent pas à la salle de sport, et on a 30% qui ne se privent pas d'activités de loisirs, cinéma, sport et tout ça. Parce qu'en fait, ils différencient la salle de sport du sport, par exemple, qui pourrait être du ballon, du vélo, des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'est chez les faibles revenus. Donc je répète, chez les faibles revenus, 30% vont à la salle de sport, en tout cas ils sont inscrits, ils vont, etc. Et 30%, alors attendez, je m'embrouille dans les chiffres, 40% vont à la salle de sport, ou en tout cas sont inscrits, et 30% s'autorisent des activités de loisirs comme le cinéma, le sport et tout ça. Chez les personnes qui ont le plus d'argent jugées riches, donc pas le plus, mais chez les personnes jugées riches, donc dans les activités, les loisirs physiques qu'ils peuvent avoir, ils vont à 14%, 14,8, donc 15%, faire du sport. 12% vont faire des visites, donc des visites culturelles en marchant, quoi, musée, tout ça, des grottes, des trucs, en mouvement. Taper la balle, donc que ça soit le tennis, le golf, des choses comme ça, 11%. La chasse, ça reste quand même une activité entre guillemets physique, on marche, on est dans la nature et tout, 8,8%. La pêche, qui est moins physique, mais ça dépend laquelle, 7,8%. Le ski, 7,2%. Donc voilà le niveau de pratique que peut avoir une personne avec des revenus plus aisés par rapport à une personne qui en a moins. Là, dans les chiffres, si je compare les deux, certes, l'éventail est plus large chez la personne qui a de l'argent, mais le pourcentage total est plus bas. Donc il y a après il faudrait parce que quand on dit le sport 14.8 donc ça englobe tout le sport 14.8 pour les riches alors que globalement si on parle les activités de loisirs cinéma sport et tout ça on parle de 30% chez les personnes à faible revenu. Donc cette histoire d'avoir moins accès ça tient pas. Bon. Je vais vous donner un petit truc là annexe qui est une loi qui avait été donnée dans le Kansas, je crois. Alors, c'est la source, ça date de 2016, mais pour vous montrer un petit peu la réflexion que peuvent avoir certains gouvernements. Donc, ils voulaient limiter l'accès aux loisirs des personnes qui avaient des bas revenus. Les personnes recevant de l'aide publique, donc typiquement une forme d'allocation, des choses comme ça, en fait, de l'argent pour les aider à survivre et à vivre, ne pourront plus dépenser leur argent à la piscine et dans les débits de boissons, ni en piercing, massage, spa, tabac, onglerie, lingerie, salle d'arcade, croisière ou voyante, parc à terme, centre équestre ou canin, entreprise du sexe ou n'importe quel endroit interdit aux mineurs. Donc en fait, ils voulaient brider un petit peu. C'est comme si le RSA qu'on donne aux personnes à bas revenus en France ou qui n'ont pas de revenus, parce que le RSA c'est quand on n'a pas du tout de revenus. Eh ben c'est comme si on disait ok, tu as le RSA, mais par contre interdit de le dépenser dans des choses, les débits de boissons et tout ça. Encore une fois, ce sont des choses, il y aurait du pour et du contre, mais est-ce que ça n'enlève pas la liberté? Mais en même temps, ils disent oui, mais là, chacun est libre. Ouais, mais toucher de l'argent, est-ce que c'est vraiment être libre? Toucher de l'argent de l'État, est-ce que c'est une forme de liberté? Je sais pas. Et en fait, cette loi, qui je trouve ça, enfin, quand elle est écrite comme ça, elle est ultra choquante et tout. Mais je trouve ça en fait déresponsabilisant pour l'individu. C'est-à-dire qu'il faut imaginer quand même le contexte dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que on donne de l'argent. Donc, je vais prendre l'analogie. C'est comme si on recevait de l'argent de poche de l'État. Et cet argent de poche, on n'a pas le droit de le dépenser comme on veut. Donc, du coup, à aucun moment il y a le phénomène de responsabilité individuelle. C'est-à-dire que déjà en donnant de l'argent aux gens, on les déresponsabilise puisqu'on n'a pas, enfin, ils n'ont pas besoin de subvenir à leurs besoins puisqu'on leur donne de l'argent. Et deuxième chose, c'est que non seulement on te donne de l'argent, mais en plus on va te dire comment le dépenser. Et surtout, enfin, on va te dire comment ne pas le dépenser. Donc on enlève, il y a une déresponsabilisation totale pourtant il faudrait redonner des responsabilités aux personnes, voilà, qui sont dans ce cas de figure-là. Évidemment, il y a des extrêmes, il y a des situations très compliquées et tout ça. Mais bon, toutes les personnes qui touchent les allocs et tout ne sont pas des personnes qui sont forcément plus démunies que d'autres. Il y en a oui, il y en a non, il y en a qui sont. Enfin, moi, il faut être honnête. Combien de personnes autour de vous, ou même peut-être vous, avez déjà dit à des gens, bah écoute, j'ai fait mon calcul, d'aller travailler, ça me coûte plus cher, alors finalement, je préfère toucher ça sert à rien puisqu'il me donne autant, donc autant que je reste chez moi. Est-ce que vous avez déjà entendu ce discours-là? Si la réponse est oui, vous êtes comme moi, quoi. Vous avez déjà entendu ça, donc il y a un côté où il y a un problème avec ça, il y a un problème. Bref, pourquoi je voulais vous parler de tout ça? Parce que moi, je suis persuadé qu'il y a une forme d'équilibre. C'est-à-dire que quand on dit les personnes, je vais parler notamment de la nutrition. Donc, la façon de tenir un régime. Un régime, une alimentation saine, etc. Vous savez qu'un taux d'échec élevé au niveau des régimes, c'est que les personnes se frustrent, ils mangent qu'ils n'aiment pas, ils trouvent ça lassant, ils sont tentés, il y a de la tentation extrême, ils craquent, ils remangent, ils culpabilisent, etc. Donc du coup, en fait, dans la dimension nutrition chez les individus, il y a une forte dimension plaisir. Et remarquez une chose, c'est que quand vous êtes très stressé, par exemple, si vous travaillez dans un environnement où il y a des périodes de bourre, donc des périodes de bourre, c'est quoi? Par exemple, une période, alors chez les comptables, on va appeler ça la période de clôture, chez les commerçants, etc., on va peut-être appeler ça les périodes estivales, où ils vont avoir beaucoup de travail, des clients tout le temps. Chez un fleuriste, on va dire que ça va être la fête des mères. Enfin voilà, vous avez des journées de bourre comme ça, des moments où c'est le travail, et enfin voilà, vous savez que ce sont des journées hyper éreintantes, où vous ne levez pas, vous ne débandez pas. Et durant ces périodes-là, si c'est stressant pour vous, Remarquez une chose, c'est que vous allez avoir tendance, pendant ces moments-là, que les plats de mauvaise qualité, les sandwichs, les fast-foods vont s'intégrer. L'excuse est, je n'ai pas le temps. Donc, du coup, je vais au fast-food du coin. Mais moi, je veux vous donner la vraie raison. C'est pas ça. C'est pas que vous n'avez pas le temps. Parce que moi, je vais vous dire directement, la veille, vous cuisinez une gamelle et voilà, vous la mangez et vous allez me dire, j'ai pas le temps de la faire chauffer. Oui, mais je te dirais, tu te fais un wrap sain avec une galette, par exemple, d'épeautre, tu mets du thon, de la tomate, des choses comme ça, tu te le roules, tu te le mets dans un papier absorbant et puis autour, tu mets du papier d'alu, t'en mets deux, trois comme ça d'avance au frigo et puis t'as tes collations, t'as tes repas. Donc, l'histoire de temps ne matche pas. Allez, tu peux te faire du sain. Mais alors, la réalité, c'est pas que la personne n'a pas le temps, c'est que la personne a besoin, dans le plus court laps de temps possible, de s'alimenter avec des choses plaisir. Donc en fait, elle est dans une quête de plaisir intense, dans un temps record. Donc quand vous êtes fortement stressé, vite, vous avez envie du Mars ou du sneaker. Pourquoi ? Parce que c'est tellement un condensé de plaisir et de rapidité à assimiler, que du coup, c'est compatible. Alors que prendre son temps de manger son blanc de poulet et ses brocolis, ça donne pas suffisamment de plaisir et ça prend du temps. Donc du coup, quand on est dans une période de stress, on va chercher à avoir le meilleur rapport temps-puissance au niveau du plaisir. Donc ça va être quoi ? Ça va être fast-food, les frites, la sauce, le hamburger et tout. En fait, on veut vite avoir le maximum de plaisir dans un minimum de temps, parce qu'on est dans une période vraiment stressante. Donc quand c'est ponctuel comme ça, pour des personnes qui travaillent et tout, des périodes de bourre ponctuelles dans l'année, bon voilà, il faut juste en avoir conscience, mais se dire c'est normal, la journée a été éreintante, on a eu peu de doses de plaisir dedans parce que ça a été vraiment stressant. Mon petit fast-food du midi, c'est que 2-3 fois par année où je craque là-dessus, bon ben voilà, ça me fait du bien. Ok, mais sauf qu'il y a des personnes qui toute l'année vivent comme ça. C'est-à-dire que toute l'année, ils sont dans une forme de stress et de bourre parce qu'ils ont une pression au niveau du travail et tout, et qu'en fait, ils recherchent le plaisir là. C'est là où je veux développer par rapport à tout ce que j'ai dit avant. C'est qu'une personne qui a des hauts revenus et une personne qui a des bas revenus, donc un riche et un pauvre, diffèrent énormément sur le niveau de plaisir. Et je m'explique. Pour moi, une des raisons pour lesquelles les riches arrive à être en meilleure forme physique, et pas tous les riches, hein, parce qu'on peut voir que quand les personnes sont débordées ou travaillent trop, elles peuvent avoir tendance, regardez les hauts PDG qui ont fort stress, etc., qui ont pourtant des hauts revenus et tout, et ben ce sont des personnes qui manquent de temps, qui ont beaucoup de stress, donc qui peuvent avoir ce comportement d'alimentation déraisonnable pour avoir le maximum de plaisir dans un minimum de temps. Donc ça peut donner des personnes en surpoids, etc., ils ont plus le temps de faire des activités physiques et tout. Mais bon, on va prendre des personnes à hauts revenus où il leur reste encore un petit peu de temps. Ces personnes-là, elles ont un éventail de plaisir beaucoup plus important que les personnes à faible revenu. Les personnes qui ont de l'argent ont le choix, admettons le week-end, pour se faire plaisir, ils vont avoir le choix entre le ski, la pêche, la chasse, taper dans la balle, visite culturelle, le sport. Et j'oublie toutes les notions, la passion automobile, la passion pour la mode, les bijoux, les montres, toutes ces choses-là. Donc en fait, ils vont pouvoir avoir des doses de bonheur, de plaisir dans des domaines autres parce qu'ils ont de l'argent et ça leur est accessible. Alors que les personnes à faible revenu, quel est le bonheur le plus low cost sur Terre ? Quel est le bonheur le plus low cost sur Terre immédiatement dans... Je parle pas là, attention, je suis pas dans le truc spirituel bouddhiste et tout où les gens diraient ouais il faut être comme on appelle ça déjà bienveillant et tout. Oui, non, mais d'accord, moi je suis d'accord avec ça, il y a pas de problème. Mais quelle est l'immédiateté la plus factuelle qui existe pour avoir du plaisir? Bah, je vais vous donner un exemple. Mangez un bonbon qui vous plaît, une fraise tagala, un schtroumpf, un truc comme ça. Vous le mettez dans la bouche, vous avez un plaisir immédiat. Les personnes à faible revenu vont avoir tendance à avoir des sources de plaisir plutôt low cost entre guillemets. Donc c'est quoi ? C'est la nourriture transformée, c'est toutes ces choses-là. Ils ont peu accès aux divertissements autres, non pas parce que les portes leur sont fermées, c'est juste qu'ils n'ont pas le budget pour. Il faut que je boive un coup. Le budget qu'il leur reste, quand ils font leurs calculs, ils peuvent avoir du plaisir dans l'alimentation. Donc, je bois un coup. Ce qui conduit dans une routine de vie ou vu que les personnes n'ont pas beaucoup de revenus et que leurs seules sources de plaisir sont dans des choses comme l'alimentation, la télé-réalité ou Netflix, et encore Netflix non, parce que Netflix c'est payant et tout, donc ça va être de la source de contenu gratuit, donc du YouTube. Du YouTube, on sait que le YouTube gratuit, enfin quelqu'un qui, enfin voilà, je vais pas vous apprendre, rester une semaine à regarder que du YouTube, enfin voilà, et, vous êtes pour la théorie du complot, vous avez perdu, je sais pas combien de neurones, etc. À un moment donné, enfin sur YouTube il y a aussi du bon, mais si vous regardez, plus le contenu est bon, moins il y a de vues, et moins il y a de vues, moins il vous est suggéré dans les algorithmes. Donc, enfin bon, et vous regarderez qu'il y a un côté. Plus le nombre de vues est important et plus la qualité du contenu de l'individu a tendance à se dégrader. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que très peu de contenu. Et non, même, je vais vous dire une chose. J'aimais bien un chercheur, enfin pas un chercheur, un professeur, je l'aime toujours bien, hein, qui s'appelle Jordan Peterson. Jordan Peterson, qui faisait des contenus très intéressants au début, à des cours avec des analyses, par exemple sur Adam et Ève, des analyses psychologiques que je trouvais très intéressantes et assez nouvelles, qui moi m'intéressaient parce que bon, je suis pas croyant, hein, mais ça m'intéressait parce que ce sont des domaines que je ne maîtrise pas, et donc du coup, je trouvais ça intéressant. Plus sa popularité a augmenté, ça ne veut pas dire que son contenu, la qualité de son contenu a baissé, mais est venu se greffer à son contenu de qualité, du contenu de moins bonne qualité, de plus compatible pour les masses. En fait, d'essayer de taper plus large et donc du coup d'être plus simpliste et de moins rester dans sa niche complexe complexe et moins compréhensible. Typiquement, son livre. Le premier qui s'appelle, je crois, La carte des sens, je crois, un truc comme ça, est beaucoup plus complexe que 12 règles pour une vie. Ça veut pas dire que l'autre est moins bon. Enfin, il est bien, mais on sent que il y a le côté qualitatif a tendance à décroître. Bon. Voilà, petite analyse sur YouTube par rapport à ça. Ce qui est normal, hein, puisque plus il y a du monde, plus ce que certains appellent le tout venant, en fait, n'importe qui. Donc, c'est par exemple, moi, je fais des podcasts sur le fitness, la nutrition, un peu la mentalité, la psychologie liée à tout ça. Si jamais mon podcast faisait, je sais pas moi, 1 million de vues par épisode, j'aurais forcément des néophytes, des novices. Et donc, ces personnes-là me poseraient des questions dans les commentaires beaucoup plus simplistes. Auquel je devrais répondre. Donc du coup, les premiers qui avaient un regard un petit peu plus aiguisé sur la pratique s'y retrouveraient moins parce qu'ils trouveraient le contenu trop simpliste. Donc, enfin, voyez comment ça se convertit. Et quand on a des millions d'abonnés, des millions de vues, forcément, ce qui domine, ce sont des personnes qui sont moins expertes dans le domaine, puisque des experts entre guillemets, il y en a peu. C'est la logique de l'expert. Hein. Et c'est que, enfin, s'il y avait que des experts, il y aurait plus d'experts. Et donc, du coup, le contenu, la qualité du contenu baisse. Bon, voilà, petite analyse sur les fréquences et tout ça, de le nombre de vues et tout. Donc, je reviens au sujet. Une personne à faible revenu, donc typiquement les pauvres, quand ils sentent mal dans leur vie, admettons, parce que ça soit des riches ou des pauvres, ils se sentent tous mal, hein, je vous rassure, tout le monde se sent mal à un moment donné, à des bonnes journées, à des mauvaises journées, à des coups de bourre, à des coups de relax, tout ça. Mais le choix des activités et des actions qu'on va pouvoir mettre en place pour se sentir bien, se réconforter, se donner du plaisir, sont beaucoup plus réduites et de mauvaise qualité chez les personnes à faible revenu que chez les personnes à haut revenu. Donc du coup, ce qui engendre quoi ? Ça veut dire qu'une personne qui a des hauts revenus aura des actions pour lui donner des plaisirs qui ne vont pas entacher sa perte de graisse ou le maintien de sa forme physique, etc. Parce qu'elle va avoir le choix de faire du ski, de faire de la pêche, de la chasse, d'aller jouer au golf, de faire tout un tas de choses, des visites de musées et tout. Là où la personne à faible revenu, donc le pauvre, n'aura, quand il se sent mal, qu'une seule et une seule option qu'il pense avoir, est d'ouvrir son frigo et de manger quelque chose qui lui donne du plaisir. Imaginez, en fait, il y a une forme de réalité qui est pas super belle à voir par rapport à ça. Donc beaucoup de personnes se disent oui, mais le sport, chacun peut sortir, aller courir, ça coûte pas d'argent. Et oui, d'accord. Mais ça, c'est, on parle que de la dimension de sport. C'est pour ça que j'ai commencé par l'activité physique, pour vous montrer que chez les personnes à faible revenu, il y a parfois plus d'activité physique que chez les personnes à haut revenu, mais que c'est certainement dans les habitudes de vie et dans les habitudes de plaisir. Parce qu'une personne à bas revenu, faites la liste des plaisirs qui existent pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est plus dans une société où jardiner, c'est du plaisir pour tout le monde, ou peindre, c'est du plaisir pour tout le monde, ou faire un puzzle, c'est du plaisir pour tout le monde. Aujourd'hui, on est dans une société où le plaisir est dicté par ce qu'on voit, et ce qu'on voit, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est populaire? C'est pas la petite promenade en forêt que je vous poste une fois tous les 36 du mois. C'est plutôt les gens sur des yachts, les gens à Dubaï, les gens avec des Ferrari et tout ça. Donc, ce sont des plaisirs qui ne sont pas disponibles pour 99% des gens. Donc tant mieux, si vous avez envie d'aller dans ce sens-là, de gagner votre vie et tout pour pouvoir vous offrir ça, tant mieux pour vous si c'est une quête. Mais la réalité montre que beaucoup des plaisirs qui vous sont présentés sur les réseaux sociaux sont des plaisirs qui ne vous sont pas accessibles aujourd'hui. Donc du coup, par frustration, ce qui est probable, au lieu de se dire j'ai vu une vie misérable et de broyer du noir, bah on va taper une fraise tagada ou des choses comme ça. C'est là où diffère, en fait, justement. J'essaie vraiment d'expliquer. C'est là où ça diffère avec une personne. Admettons, demain, je vous donne, je sais pas, un revenu de 15 ou 20 000 ou 50 000 euros par mois. Ce qui vous paraît énorme, mais croyez-moi, chez les influenceurs les plus populaires, je suis loin de la réalité, c'est encore plus élevé. Et je vous parle pas de chiffre d'affaires. Hein. Je vous parle de revenus nets. Hein. Attention. Chez des influenceurs à forte popularité, dites-vous bien une chose, c'est que ce sont des salaires monstrueux. Des choses qu'on n'a pas vues avant. Hein. Des choses, ils dépassent largement certains PDG et tout, alors qu'ils ont inventé un truc depuis leur chambre. Il faut le comprendre. Mais c'est qu'une fraction, un micro pourcentage. Attention. Hein. Je vous parle pas de celui qui a quelques abonnés ou 10, 30 000 ou 100 000 abonnés. Je vous parle vraiment de ceux qui sont dans les hautes sphères de l'audience et qui a réussi à vendre quelque chose aussi. Hein, parce que ça, il faut être intelligent. Ce sont des personnes, voilà, qui arrivent à avoir, voilà, et qui montrent. Et ceux qui montrent ces choses-là, si par exemple une personne a des hauts revenus et regarde par exemple un influenceur sur un bateau et tout ça, il dit « Tiens chérie, ça fait longtemps, on n'a pas fait de bateau, cet après-midi on va faire du bateau ». Donc lui, il ne le vivra pas pareil, il a accès à ça. Par contre, celui qui n'a pas accès, il aura aussi envie de se dire qu'il n'a pas une vie de merde et de se faire plaisir. Donc s'il peut pas le faire avec son argent, il va le faire avec ce qui est disponible sous la main directement, ça va être de la nourriture. Donc pourquoi je parle de tout ça? Parce que il faut bien comprendre qu'il y a un lien, non pas entre l'argent que vous avez ou que vous n'avez pas, ou que vous percevez chez d'autres, mais il y a un lien entre temps disponible, argent, parce que pour moi, le bon équilibre, c'est celui qui a suffisamment d'argent. Donc, on va dire typiquement une personne qui est riche, mais qui a pas suffisamment de comment on appelle ça, d'ambition pour meubler l'intégralité de sa journée par du stress et du travail. Donc du coup, il va lui rester du temps pour des vrais loisirs, du sport et tout ça, et cuisiner, enfin bon, quand on a vraiment beaucoup d'argent, je pense qu'il y a des personnes qui cuisinent même plus. Mais donc il y a un équilibre, c'est-à-dire que dans un extrême, on va retrouver les problématiques qui existent aussi dans l'extrême opposé, de pauvreté entre guillemets. Donc le surpoids extrême et tout ça, qui ne sont pas pour les mêmes raisons, parce qu'on peut être très bien en fort surpoids avec beaucoup d'argent qui tombe tous les mois, et inversement, on peut se trouver aussi en surpoids avec très peu d'argent qui tombe à la fin du mois. Donc il y a deux extrêmes, et au milieu se loge un petit peu la voie de la raison entre guillemets, où il y a des personnes qui ont compris que elles. En fait, faut comprendre une chose, c'est que vous avez à votre portée énormément de sources de plaisir disponibles. Sauf que dans la précipitation, dans le manque de temps et dans les croyances que c'est qu'avec de l'argent qu'on peut faire telle ou telle chose, on va être réduit à des sources de plaisir immédiates et parfois nocives qui vont être la bouffe par exemple. Alors j'ai parlé que de la bouffe, mais j'ai pas parlé des addictions. Hein. On peut greffer à ça des addictions, n'importe laquelle. Hein. Et donc du coup, il peut y avoir un abus où les personnes, leur seule source de plaisir dans la vie, ça va être des choses qui vont aller à l'encontre de leur forme physique, et notamment au niveau de la nutrition. L'analogie que j'ai pris tout à l'heure par rapport à la nutrition, c'est pas vraiment une analogie, mais l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure par rapport à la nutrition sur les journées fortement stressantes où vous allez chercher à avoir le maximum de plaisir sur le plus court laps de temps possible, typiquement un Mars, un bonbon et tout, pour une journée vraiment pourrie où votre patron vous a maltraité, entre guillemets, émotionnellement et tout ça. Et donc, à ce moment, enfin, je dis votre patron, mais vous pouvez être à votre compte et vivre ça aussi. Et donc, du coup, ça se comprend. C'est pour ça que quand vous avez une journée pourrie, vous avez envie de manger des choses qui vous font du bien, parce que justement, vous avez besoin d'une compensation. Et quand vous avez le luxe, entre guillemets, d'avoir un éventail de plaisirs beaucoup plus important, vous avez moins tendance à vous tourner vers la nourriture. Donc, moi, je trouve qu'il y a la morale, en fait, de mon discours par rapport à ça. Enfin, la morale, c'est pas la morale, c'est la conclusion, en tout cas, l'hypothèse que j'aimerais émettre par rapport à mon discours, là. C'est qu'il faut se trouver des choses importantes, donc c'est-à-dire d'arriver à meubler sa vie autrement que par « je bosse, je me fais plaisir en bouffant et en allant sur Internet » ou des choses comme ça. Il faut se dire « ok, est-ce que c'est un mode normal de vie ?» Pourquoi ? Parce que surtout pour les personnes qui sont pas épanouies dans leur travail, il y en a beaucoup. Donc énormément de personnes, pour eux, le lundi matin, c'est une torture. Donc si vous n'êtes pas épanoui dans votre travail, je vous dirais jamais changer de boulot. Je suis pas de cette génération qui dit, pour moi, le travail est une forme de souffrance, est une forme de devoir, etc. Enfin, il faut à accomplir. Donc, on peut avoir un travail qu'on aime, comme moi, par exemple, mais qui est difficile. Je veux dire, pour moi, c'est pas facile tous les jours de faire le travail que je fais. Il y a des périodes de doute, il y a des périodes après de réjouissance, il y a des périodes de... Enfin, voilà, on a beau avoir des idées, d'avoir certaines compétences et tout, comme tout travail, il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres. Plus vous aimez votre travail et plus... Bon, voilà, je vais être honnête avec vous, plus votre travail vous plaît, plus c'est facile à tenir. Parce que ça donne du sens. Moi, aujourd'hui, je trouve beaucoup de sens dans ce que je fais. Et donc, du coup, ça meuble en tout cas, ça meuble et ça cadre les moments de doute qu'on peut avoir à certains moments quand on est un peu fatigué et tout ça. Mais à l'inverse, les personnes qui ont un travail, voilà, comme ça, qui ça donne pas forcément de sens et tout, qui est difficile, moi je leur dirais pas change de boulot et tout. Ça c'est, enfin voilà, je suis pas un coach en entreprise, mais par contre je leur dirais une chose, je leur dirais pas quand tu sors du travail ou quand tu es à ta pause, regarde bien les actions que tu as mis en place, quelles sont les sources d'occupation, qu'est-ce qui meuble ton esprit, à quoi tu peux t'identifier si aujourd'hui ton travail ne te plaît pas forcément, donc t'as pas envie de t'épanouir là-dedans, ça donne pas forcément de sens à ta vie, ok. Donc ça veut dire qu'il va falloir te concentrer sur les heures restantes de ta journée où tu n'es pas au travail et qu'est-ce que tu en fais. Est-ce que tu en fais du divertissement pur, donc télévision, jeux vidéo et nourriture malsaine, et est-ce que t'as pas envie à un moment donné d'avoir quelque chose qui t'anime? Et quand je dis quelque chose qui t'anime, c'est un projet, un but, un objectif. J'en parle assez régulièrement. Essayez de trouver un petit truc que vous faites devenir important. Donc, par exemple, je sais pas, faire quelques pompes tous les jours. Il y a un exemple comme ça, mais faire quelques pompes tous les jours, ça peut ne pas avoir de sens pour vous, mais finalement, ça en a énormément, parce que faire quelques pompes, je déroule le schéma. Faire quelques pompes tous les jours. Bah, aujourd'hui, je vais vous montrer le sens profond que ça peut avoir. Vous faites quelques pompes, 5 pompes, 10 pompes aujourd'hui. Donc, vous n'avez pas envie de les faire, vous les faites. Une fois que vous les avez faites, premier sens positif, c'est que vous vous sentez bien. Vous vous dites, je l'ai fait, je m'étais dit ce matin que je les ferais, je les ai faites. Et je me suis senti capable et je l'ai fait et j'en suis capable. Donc, fierté, estime de soi, c'est très bien. Immédiateté, ça donne du sens, même pour votre journée. Vous vous couchez satisfait d'avoir accompli quelque chose. Le lendemain, vous recommencez. Donc, c'est pareil. La même sensation se reproduit, mais s'additionne à une autre qui est, je commence tout doucement à tenir. C'est-à-dire que je suis capable de le reproduire plus d'une seule fois. Et puis vous recommencez pendant une semaine. Là, vous vous dites, waouh, je commence à prendre comme un petit nouveau rituel. Donc c'est très bon les rituels, faut le savoir, parce que des rituels, quand vous commencez à avoir des rituels dans votre vie, c'est une forme d'apprentissage qui peut se transposer à d'autres choses. Donc par exemple, un rituel de faire du sport, ça peut se transposer après sur de la lecture ou sur tout un tas de choses, mieux manger et tout ça. Donc je prends toujours l'exemple des pompes. Donc ça fait une semaine que vous faites des pompes tous les jours, vous êtes content, donc vous avez l'immédiateté, la sensation de bien-être juste après, les bras un peu engourdis, les pecs un petit peu chauds, vous vous sentez bien, vous vous sentez capable de faire quelque chose. Au bout d'une semaine, vous avez pris une routine, donc votre fierté commence à monter. Vous pouvez commencer à en parler autour de vous et tout. Au niveau social, vous commencez à avoir une espèce de confiance un tout petit peu plus élevée. Un embryon de confiance qui monte, en fait. Au bout d'un mois, c'est plus du rituel, c'est vraiment de l'habitude. Donc de l'habitude, presque comme vous brossez les dents, vous vous levez, vous faites vos pompes comme vous vous brossez les dents. Donc vous conservez toujours les bienfaits du début, hein. C'est toujours pareil, c'est qu'une addition. Donc ça donne du sens. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Ben vous commencez à prendre de la masse musculaire, vous commencez à perdre du gras peut-être, vous commencez à vous sentir mieux en fait dans votre peau. Vous sentez que dans vos t-shirts et tout, ça se passe mieux. Donc ça donne encore plus de sens puisque l'image que vous aviez avant de vous est moins intéressante que celle que vous avez de vous aujourd'hui. Donc vous n'avez pas envie de le perdre, ça donne du sens de continuer. Et puis vous perdurez encore, vous perdurez et vous vous rendez compte qu'à force de faire ça, peut-être que c'était 10 pompes au début, aujourd'hui vous en faites 50 ou 100 d'affilée et que c'est ritualisé, donc vous avez un nombre de pompes de sur l'année qui est impressionnant, votre niveau de santé s'améliore. S'améliore, ok. Donc ça donne du sens, puisque votre santé s'améliore. Vous n'avez pas envie de revenir à un mode de vie où vous avez la santé qui était moindre. On est d'accord, ça donne du sens. Et vous continuez à accumuler ceux du passé avec ceux du présent davantage, et ainsi de suite. Et puis vous dites, mais si je continue comme ça dans 10 ans, je vais être encore mieux qu'aujourd'hui. Donc là, encore une fois, ça donne du sens. Et si je continue encore jusqu'à la vieillesse, je sais que, voilà, quand on entraîne ses muscles, ça permet d'avoir une structure osseuse qui est plus solide, donc on aura moins de risques de blessures, on sera moins dépendant à la vieillesse. Une masse musculaire développée permet aussi d'avoir une meilleure immunité. Donc tout ça donne du sens. Donc vous voyez que vous pouvez trouver du sens à faire juste 10 pompes aujourd'hui, quelque chose qui se multiplie, qui s'additionne avec le temps et qui devient quelque chose de vraiment concret et qui va venir corriger, tamponner les excès de recherche de bonheur dans des choses qui sont néfastes. Et c'est comme ça en fait quand beaucoup de personnes me demandent ouais comment quel sens tu trouves à faire du sport, ben je viens de te le dérouler là en fait. C'est comme ça moi que je trouve du sens à faire du sport. Ça veut pas dire qu'en faisant du sport on corrige tous les maux. Ça veut dire qu'au moins avec ça, ça permet de gagner beaucoup. Et là, j'ai fait un raccourci vraiment rapide. J'ai pas parlé au niveau mental de ce que ça peut apporter au niveau de la santé mentale, mais au niveau de tout un tas de choses. Et beaucoup de personnes en fait se voit le sport uniquement sur le côté esthétique, mais ça peut apporter tellement plus, voilà. Bon, je m'arrête ici. Je vous laisse tous les liens à suivre là dans les notes de l'émission, donc notamment la formation sur le dos. Bon, il y a aussi plein de formations sur la motivation, sur le mental et tout ça. Vous savez que c'est une discipline que j'aime beaucoup travailler. Je fais beaucoup de recherches et j'ai beaucoup de réflexions là-dessus parce que ça m'intéresse et je pense qu'aujourd'hui, j'en suis convaincu que par le nombre d'ouvrages sur la nutrition, par le nombre d'ouvrages sur l'entraînement qui existent, si on n'a pas trouvé la solution pour aider toutes les personnes qui en ont besoin et qui ont parfois l'envie de changer, c'est parce qu'on ne travaille pas sur une autre dimension qui est cette dimension de style de vie. Et j'en suis convaincu, c'est pour ça que c'est très largement abordé sur mon site et que on parle beaucoup aussi, beaucoup de personnes, et ça retenez-le bien. Retenez-le bien parce que c'est très important et quand j'ai compris ça, c'est pareil, moi ça m'a un peu ouvert les yeux sur la façon dont je peux aider les gens. Énormément de personnes connaissent les derniers 50% de la connaissance en musculation et en nutrition. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur un site internet ou autre, ils apprennent les 50%, les 50 derniers pourcents, entre guillemets. Donc c'est-à-dire qu'ils vont savoir, ils vont tomber sur un programme pour développer leur pec, ils vont tomber sur un programme pour sécher, pour avoir des abdos, un programme pour prendre de la masse, etc. Donc ça, en fait, l'intégralité des gens qui s'intéressent à la muscu savent ce genre de choses. Quasiment tous et toutes. Mais par contre, il leur manque les 50 premiers pourcents, qui sont la compréhension des rituels, la compréhension d'être capable de faire les bons choix et de perdurer en fait avec ces bons choix au niveau de alimentaire et tout ça, de trouver du sens. C'est pareil parce que quand on posait une question autour de vous, quel sens ça donne à toi de faire du sport tous les jours? Bon, ils savent pas. Et en fait, la notion esthétique aussi, la notion psychologique, et ça pour moi, ce sont les 50 premiers pourcents. Ce sont ces 50% qui manquent à quasiment toutes les personnes qui échouent en permanence leur régime et leur discipline sportive. Et c'est pour ça que chez ces gens-là, c'est frustrant parce que ces personnes-là savent comment s'entraîner, savent comment manger, mais ils savent pas comment y arriver en fait, puisqu'ils savent tout, mais ils savent pas y arriver. Ils savent pas se mettre en route et tout. Et moi, mon travail, vraiment, c'est pour ça que je vous parle de style de vie, mon travail se concentre énormément depuis des années sur ces 50 premiers pourcents qui ne sont jamais abordés. Jamais abordé. Prenez un livre de musculation X ou Y ou un livre de nutrition X ou Y, il y aura jamais abordé ces 50 premiers pourcents qui sont ni de la nutrition, ni de l'entraînement, mais qui sont du style de vie, de réussir à se construire des objectifs, mais pas dans une quête un peu à la développement personnel comme on voit aujourd'hui, où faut fixez-vous un objectif à 7 jours, à 1 mois, à 1 an. Non, fixez-vous des objectifs dans des routines de vie qui sont tenables pour vous par rapport à votre situation, si vous vivez dans un manoir ou dans un T2, si vous avez un travail de nuit ou de jour, des choses mesurables et faisables, pas des choses qui vont être faisable uniquement les jours où tout va bien, c'est-à-dire quand vous êtes en vacances et puis le reste de l'année, c'est pas possible à tenir. Toutes ces choses-là, c'est pour moi ce qui m'intéresse le plus, parce qu'on a fait énormément d'avancées dans la nutrition et l'entraînement, mais très peu dans ce domaine-là. Il y a très peu de recherches. Et je vais vous dire une chose, c'est que je pense que les 3/4 des découvertes que j'ai faites ces 5 dernières années sont liées à des domaines hors musculation. C'est-à-dire que ce sont des ponts qui se sont créés entre des disciplines autres que l'entraînement et la nutrition et qui sont venus contaminer ma pensée par rapport à ça et qui m'ont fait ouvrir les yeux. Alors, j'ai lu beaucoup de psychologie, beaucoup de philosophie. J'ai perdu énormément de temps au début avec mes lectures sur le développement personnel et je m'en veux, c'était un passage peut-être obligatoire, mais j'ai perdu du temps sur du développement personnel qui, pour moi, le développement personnel, un livre de développement personnel, c'est un peu comme un bonbon sucré, c'est-à-dire que vous allez mal, vous le consommez, ça va mieux, mais en fait ça vous donne pas beaucoup de clés de compréhension. Je parle du développement personnel moderne, peut-être pas celui d'avant, mais et vous vous rendrez compte que si vous lisez un peu de philosophie, beaucoup de développement personnel vient de la philosophie, etc. Et voilà. Enfin, en tout cas, vous avez un peu mon point de vue sur tout ça. Mon travail, en fait, se localise là-dessus, précisément sur ces 50 premiers pourcents qui sont liés à du style de vie, qui sont liés à des habitudes, qui sont liés à des rituels, qui sont liés à des façons de penser, à des façons de s'armer par rapport à une condition, par exemple au revenu, bas revenu, surpoids, sous-poids, enfin toutes ces choses-là. C'est pas toujours les mêmes mécanismes à avoir par rapport aux situations. Et donc, je trouve que là, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. J'ai déjà commencé à en faire pas mal sur mon site, mais je prétends pas être le seul à faire des découvertes là-dessus, hein, loin de là. Mais en tout cas, moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant de comprendre pourquoi énormément de personnes commencent à basculer du côté, entre guillemets, obscur. C'est-à-dire, le côté obscur, c'est le côté où ces personnes ont toutes les cartes pour savoir s'entraîner et savoir manger, mais sont incapables de se décider à quoi manger, alors qu'ils savent quoi manger, mais ils savent pas comment l'imbriquer dans leur quotidien et tout ça. Donc voilà, bon, je m'arrête ici, le podcast est déjà trop long. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Allez faire un tour dans les liens en description, sinon on se retrouve en VIP pour les formations chaque semaine. Bye.
Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles, hein, sur la plateforme que tu préfères, hein, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.